L'on fait bien de constater simplement certaines choses qui ne peuvent pas changer, sans déplorer les faits ou même les juger. C'est ainsi qu'il m'est apparu clairement que je ne serai jamais un véritable liseur. Lorsque j'étais enfant, je considérais la lecture comme une profession qu'il faudrait assumer, plus tard, un jour, lorsque viendrait le tour des professions. À dire la vérité, je ne me représentais pas exactement quand cela arriverait. Je pensais que se manifesterait une époque à laquelle la vie se rabattrait, en quelque sorte, et ne viendrait plus que du dehors, ainsi qu'autrefois du dedans. Je me figurais qu'elle deviendrait alors intelligible, facile à interpréter, et n'admettant plus aucune équivoque. Peut-être nullement simple, au contraire très exigeante, compliquée et difficile, j'y consens, mais toutefois visible. Cet illimité si singulier de l'enfance, ce non relatif, que jamais l'on avait dominé du regard, cela du moins serait alors surmonté. Sans doute ne voyait-on pas du tout comment. Au vrai, cela s'accroissait toujours encore et se refermait de toutes parts. Et plus l'on regardait au dehors, plus l'on remuait de choses au fond de soi. Dieu sait d'où elles venaient. Mais peut-être croissait-elle jusqu'à un degré de force extrême et se brisait-elle tout à coup. Il était facile à observer que les grandes personnes n'en étaient que fort peu inquiétées. Elles allaient et venaient, jugeaient et agissaient. Et lorsqu'elles se heurtaient à des difficultés, celles-ci ne tenaient jamais qu'aux circonstances extérieures. C'est à l'époque de ces transformations que je situais aussi la lecture. Alors on traiterait les livres comme des amis, on aurait un temps à eux réservé, un certain temps qui s'écoulerait régulièrement et docilement, justement aussi long qu'il vous plairait de le leur consacrer. Naturellement, certains livres vous tiendraient de plus près, et il n'est pas du tout dit que l'on serait assuré de ne pas perdre de temps en temps une demi-heure qui eût dû être consacrée à une promenade, à un rendez-vous, à un lever de rideau ou à une lettre urgente. Mais que vos cheveux prissent un mauvais pli ou s'emmêlassent comme si l'on s'était appuyé sur eux, ou que vos oreilles devinssent brûlantes et vos mains froides comme du métal, et qu'une longue chandelle acheva de se consumer à côté de vous, jusque dans le chandelier, cela, Dieu merci, serait définitivement exclu. Je cite ces symptômes parce que j'en fis moi-même l'expérience de façon assez profonde pendant ces vacances à Ulsgaard, durant lesquelles j'entrais si subitement en lecture. Il apparut alors aussitôt que je ne savais pas lire. Sans doute avais-je commencé avant l'époque que j'assignais à cette occupation. Mais cette année, à Soro, au milieu de tant d'égaux en âge, m'avait mise en méfiance contre de tels calculs. Là-bas, des expériences subites et inattendues étaient survenues, et il était évident qu'elles m'avaient traité en grande personne. C'étaient des expériences de grandeur naturelle qui pesaient sur moi de tout leur poids. Mais dans la mesure même où je comprenais leur réalité, mes yeux s'ouvraient aussi sur la réalité infinie de mon enfance. Je savais que l'une ne cesserait pas plus que l'autre ne commençait seulement. Je me disais que chacun, bien entendu, était libre de faire des séparations, mais elles étaient inventées. Et il apparut que j'étais trop maladroit pour en imaginer à mon usage. Chaque fois que je m'y essayais, la vie me faisait comprendre qu'elle ne les reconnaissait pas. Et si je persistais à considérer que mon enfance était passée, à cet instant tout l'avenir aussi était évanoui, et il ne me restait exactement que ce qu'un soldat de plomb a sous les pieds pour pouvoir se tenir debout. Cette découverte m'éloigna bien entendu encore davantage des autres. Elle m'absorbait en moi-même et m'emplissait d'une sorte d'allégresse définitive que je prenais pour de la tristesse, parce qu'elle dépassait de beaucoup mon âge. Autant que je me souviens, j'étais inquiet aussi, parce que, à présent que plus rien n'était prévu pour une époque déterminée, beaucoup de choses pourraient être complètement négligées. Et lorsque je revins dans cet état d'esprit à Ulsgaard et que je vis tous les livres, je me jetais sur eux à la hâte, avec une conscience presque mauvaise. Ce que j'ai souvent éprouvé plus tard, je le pressentis alors en quelque sorte, savoir que l'on n'a pas le droit d'ouvrir un livre si l'on ne s'engage pas à les lire tous. À chaque ligne, on entamait le monde. Avant les livres, il était intact, et peut-être le retrouverait-on tout entier après. Mais comment allais-je, moi, qui ne pouvais pas lire, les absorber tous? Ils étaient là, même dans cette modeste bibliothèque, en nombre si grand, et ils tenaient ensemble. Têtu et désespéré, je me jetais de livre en livre et me frayais un chemin à travers les pages, comme quelqu'un qui doit fournir un travail disproportionné à ses forces. Je lus alors Schiller et Baggesen, Oehlenschläger et Schacht-Staffeldt, tout ce qu'il y avait de Walter Scott et Calderon. Beaucoup de choses tombaient entre mes mains qui auraient dû en quelque sorte avoir été déjà lues. Pour d'autres, au contraire, il était beaucoup trop tôt. Mais presque rien n'était échu pour mon présent d'alors, et malgré cela, je lisais. Des années après, il m'arrivait parfois la nuit de m'éveiller, et les étoiles étaient si véritables et s'avançaient de façon si convaincante, et je ne comprenais pas que l'on pût se contraindre à perdre une telle somme de monde. C'est là, je crois, ce que j'éprouvais lorsque je levais les yeux et regardais dehors, où était l'été, où Abelone m'appelait. Il nous semblait très surprenant qu'elle dût m'appeler et que je ne répondisse même pas. Cela tombait dans notre temps le plus heureux. Mais comme cette fièvre s'était emparée de moi, je m'accrochais convulsivement à ma lecture et me dérobais, important et têtu, à nos jours de fête quotidiens. Maladroit que j'étais à profiter des occasions nombreuses mais peu apparentes d'un bonheur naturel, je me plaisais à me faire promettre de notre différend qui s'aggravait, des réconciliations futures, d'autant plus délicieuses qu'on les aurait retardées davantage. Du reste, mon sommeil de lecture se termina un jour aussi brusquement qu'il avait commencé, et alors nous nous fâchâmes pour tout de bon. Car Abelone ne m'épargna aucune taquinerie dédaigneuse, et lorsque je la rencontrais sous la tonnelle, elle prétendait lire. Un certain dimanche matin, le livre était sans doute fermé à côté d'elle, mais elle semblait plus qu'assez occupée par les groseilles dont elle détachait avec une fourchette les petits grains. Ce doit avoir été une de ces heures matinales, neuves et reposées comme il y en a en juillet, et durant lesquelles il n'arrive que des événements joyeux et irréfléchis. Des millions de petits mouvements irrépressibles composent une mosaïque de vie, la plus convaincue qui soit. Les choses vibrent les unes dans les autres, et au-delà, dans l'atmosphère, leur fraîcheur rend les ombres claires, prête au soleil une clarté légère et spirituelle. Il n'y a plus alors au jardin rien d'essentiel, tout est partout, et il faudrait être dans tout à la fois pour ne rien perdre. Dans le petit geste d'Abelone, le tout était encore une fois inclus. C'était d'un tel bonheur d'invention qu'elle fit justement ceci, et exactement ainsi qu'elle le faisait. Ses mains claires, dans l'obscurité de l'ombre, travaillaient avec une intelligence si légère l'une vers l'autre, et devant la fourchette sautaient, comme à plaisir, les baies rondes dans la coupe garnie de feuilles de vigne humides de rosée, où d'autres baies déjà s'amoncelaient, rouges et blondes, illuminées de leurs points de lumière, avec des grains sains dans la pulpe acide. Aussi ne désirais-je que de regarder, mais comme il était vraisemblable que l'on m'en empêcherait, pour me donner une contenance, je pris le livre, m'assis de l'autre côté de la table, et sans longtemps le feuilleter, je m'y plongeais n'importe où. « Si au moins tu lisais à haute voix, bouquineur, » dit Abelone au bout d'un instant. Le son de ces mots n'était plus du tout hostile, et comme il était, me semblait-il, grand temps de nous réconcilier, je lus aussitôt, à haute voix, sans arrêt, jusqu'au prochain alinéa, et plus loin encore jusqu'au prochain titre, à Bettine. « Non, pas les réponses, » m'interrompit Abelone, et comme épuisée, Elle déposa tout à coup la petite fourchette. Aussitôt après, elle rit de la mine avec laquelle je la regardais. « Mon Dieu, que tu as donc mal lu, Malte !» Je dus convenir que je n'avais pas pensé un seul instant à ce que je faisais. Je ne lisais que pour être interrompue, avouai-je, et j'eus tout à coup chaud, et feuilletai le livre en arrière pour trouver la page du titre. Alors seulement je sus quel livre c'était. « Pourquoi pas les réponses ?» demandai-je curieux. Ce fut comme si Abelone ne m'avait pas entendu. Elle était assise, là, dans sa robe claire, comme si partout à l'intérieur, elle était devenue toute sombre, telle qu'étaient à présent ses yeux. « Donne !» dit-elle soudain, comme en colère, et prit le livre dans sa main et l'ouvrit à la page qu'elle voulait. Et alors elle lut une des lettres de Bettine. Je ne sais pas ce que j'en compris, mais c'était comme si l'on m'avait promis solennellement qu'un jour je saisirais tout cela. Et pendant que sa voix s'élevait et ressemblait enfin presque à celle que je connaissais par son chant, j'eus honte tout à coup de m'être représenté notre réconciliation d'une manière si banale. Car je compris bien qu'elle était en train de s'accomplir. Mais à présent elle avait lieu, en grand, quelque part, loin, au-dessus de moi, où je n'atteignais même pas. Cette promesse se remplit encore toujours. Par hasard, le même livre se retrouve de nouveau parmi les miens, parmi les quelques livres dont je ne me sépare pas. À présent, pour moi aussi, il s'ouvre au passage auquel je pense justement, et pendant que je les lis, il est incertain si je songe à Bettine ou à Abelone. Non, Bettine est devenue plus vivante en moi. Abelone, que j'ai connue, n'a fait que préparer l'autre, et voici qu'elle a fleuri en Bettine comme en son être le plus propre et le plus inconscient. Car cette étrange Bettine a par toutes ses lettres créé de l'espace et comme un monde de dimensions élargies. Elle s'est depuis le commencement répandue en tout comme si elle avait déjà dépassé sa mort. Partout, elle s'était installée profondément dans l'être, elle en faisait partie, et tout ce qui lui arrivait était de toute éternité contenu dans la nature. Là, elle se reconnaissait, elle s'en détachait presque douloureusement. Elle se devinait peu à peu comme remontant à des traditions. Elle s'évoquait comme un esprit et s'affrontait. Voici un instant, Bettine, tu étais encore, je te comprends. La terre n'est-elle pas chaude de toi, et les oiseaux ne laissent-ils pas de l'espace pour ta voix? La rosée est autre, mais les étoiles sont encore les étoiles de tes nuits. Ou le monde entier n'est-il pas tien? Car combien de fois l'as-tu incendié de ton amour, et l'as-tu vu flamboyer et se consumer, et l'as-tu en secret remplacé par un autre monde, tandis que tous dormaient? Tu te sentais bien d'accord avec Dieu, lorsque chaque matin tu lui demandais une nouvelle terre, afin qu'eussent leur tour tous ceux qu'il avait créés. Il te semblait peu digne de les épargner et de les réparer, et tu avançais tes mains vers un monde toujours nouveau, car ton amour égalait tout. Comment est-il possible que tous ne parlent encore de ton amour? Qu'est-il depuis arrivé de plus mémorable? Qu'est-ce donc qui les occupe? Toi-même, tu connaissais la valeur de ton amour, tu le disais à haute voix à ton plus grand poète, afin qu'il fût rendu humain, car il était encore élément. Mais le poète, en t'écrivant, en a dissuadé les hommes. Tous ont lu ses réponses et les croient plus tôt, parce que le poète leur est plus intelligible que la nature. Mais peut-être comprendront-ils un jour qu'ici était la limite de sa grandeur. Cette aimante lui était imposée et il ne l'a pas supportée. Qu'est-ce à dire qu'il n'ait pu lui répondre? Un tel amour n'a pas besoin de réponse, il contient la peau et la réponse, il s'exauce lui-même. Mais le poète aurait dû s'humilier devant elle dans toute sa magnificence et ce qu'elle dictait, l'écrire à deux mains comme Jean de Patmos à genoux. Il n'y avait pas de choix possible en présence de cette voix qui remplissait la fonction des anges, qui était venu pour l'envelopper et l'entraîner vers l'éternel. C'était là le char de sa montée embrasée vers le ciel. C'était là qu'était préparé à sa mort le mythe obscur qu'il laissa vide. Le destin aime à inventer des destins et des figures. Sa difficulté tient à sa complexité. Mais la vie elle-même est difficile par sa simplicité. Elle n'a que quelques éléments d'une grandeur qui nous surpasse. Le saint, en déclinant le destin, choisit ceci pour l'amour de Dieu. Mais que la femme, conformément à sa nature, doit faire le même choix par rapport à l'homme, c'est là ce qui évoque la fatalité de toutes les amours. Résolue et sans destin, comme une éternelle, elle est debout à côté de lui qui se transforme. Toujours l'aimante surpasse l'aimé, parce que la vie est plus grande que le destin. Son don d'elle-même peut être infini, c'est là son bonheur. Mais la misère sans nom de son amour a toujours été celle-ci, qu'on lui ait demandé de limiter ce don. Aucune autre plainte n'a jamais été exprimée par des femmes. Les deux premières lettres d'Héloïse ne contiennent que celle-là, et 5 siècles plus tard, elle s'élève encore des lettres de la portugaise. On la reconnaît comme un appel d'oiseau. Et soudain, le clair espace de cette connaissance est traversé par la forme la plus lointaine de Sappho, que les siècles ne trouvèrent pas, parce qu'ils l'ont cherchée dans le destin.